Si vous avez vos 2 pence bien placés en banque, sains et saufs, ils deviendront très vite investis dans une banque. Ce sera la fortune. Et vous reculerez.
Et oui, dans Mary Poppins, on trouve une chanson sur la banque que nous sommes en train d'écouter. Nous sommes en compagnie de Pierre Delauzin. Bonjour, vous êtes délégué général de l'Association française des marchés financiers qui regroupe les professionnels de la bourse et de la finance, et de Jézabel Coupé-Soubéran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous êtes responsable d'un master sur le contrôle des risques bancaires et vous êtes également conseillère scientifique au Conseil d'analyse économique. Pierre Delauzin. Aujourd'hui, lorsque l'on vous dit que vous êtes en face avec la Deutsche Bank d'un risque important, y a-t-il, selon vous, eu les efforts nécessaires de la part des banques pour sécuriser le système bancaire européen ?
Il y a eu surtout beaucoup de nouvelles réglementations qui ont abouti à augmenter énormément le niveau des fonds propres, c'est-à-dire de l'argent que les banques ont reçu en propre, qui est là pour être perdu si jamais il y a un risque et qui n'a pas à être remboursé. Donc là, on a relevé considérablement les digues. Le problème de Deutsche Bank, c'est que ils avaient un niveau un peu plus bas que les autres par rapport à ces nouvelles règles, et car est arrivée la nouvelle d'une très grosse amende américaine, qui évidemment mange encore une partie des fonds propres. D'où la question que se sont posées les gens. Est-ce qu'il est possible pour eux de retrouver le niveau de fonds propres voulu ? Et donc, c'est une inquiétude sur le niveau réglementaire des fonds propres. Ce n'est pas une information sur des mauvaises opérations qu'ils auraient faites.
Je vous ai convié ce matin, Pierre Delauzin, parce que vous connaissez bien ce que pensent les banques. Vous travaillez dans le système bancaire. On a entendu tout à l'heure avec Marc Roche un discours plutôt critique vis-à-vis des banques. On a également entendu un certain nombre de mesures, notamment dans des accords qui s'appellent les accords Bâle 3, donc faits à Bâle, des accords qui visent notamment à augmenter le niveau de fonds propres des banques, comme vous l'avez dit, autrement dit l'argent qui est disponible dans les caisses et qui garantit en quelque sorte la sécurité des dépôts. Est-ce que vous, qui appartenez au système bancaire, vous êtes favorable à l'augmentation des fonds propres ?
Il est tout à fait vital qu'il y ait un niveau suffisant de fonds propres, d'abord. Deuxièmement, le niveau qu'il y avait avant la crise était manifestement insuffisant. Donc il était bon de les relever. Après, évidemment, il faut trouver le bon niveau, parce que plus vous demandez des fonds propres, évidemment, plus c'est sûr, mais du coup, plus vous réduisez l'activité relative des banques, puisque les fonds propres ne sont pas en quantité illimitée. Donc il faut trouver le bon niveau, et c'est le comité de Bâle, donc les banques centrales, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne et tous les autres, qui sont supposés trouver ce bon niveau.
Ce que vous êtes en train de dire, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est qu'il peut y avoir un effet pervers à l'augmentation donc des fonds propres minimaux. Et cet effet pervers, il est lié donc au fait que les banques doivent être surcapitalisées par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Et il y a un lien entre cette situation et cette nouvelle demande juridique et un mot barbare, un néologisme dont on a beaucoup entendu parler, la titrisation, parce que cette titrisation, elle permet d'augmenter les fonds propres, elle permet en tout cas de transformer un certain nombre de prêts, différents produits financiers en actions, enfin en différents produits qu'on va coter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la critique de la titrisation a été menée de manière trop sévère ?
La titrisation, en fait, permet à la banque d'avoir moins besoin de fonds propres, puisque tout simplement, on fait sortir des prêts de son bilan. Donc c'est comme si c'était plus à elle. Elle a gagné au passage de les fabriquer, mais c'est plus chez elle. Donc si nous on regarde que la banque, évidemment ça facilite du coup les choses, puisque elle a moins besoin de fonds propres et elle peut plus prêter avec les fonds propres qu'elle a. Donc de ce point, du point de vue de la banque, c'est évidemment une bonne chose. Après, la question, c'est de savoir comment on titrise. On fait un paquet avec les crédits et on va les vendre sur le marché. C'est comme un paquet sur un marché ordinaire. Et donc la question est de savoir, est-ce que ce qu'on met sur le marché ordinaire est sain ? C'est un peu comme un fromage, si vous voulez. Est-ce qu'il est sain ? Et c'est ça la question de la titrisation. On a mis des règles beaucoup plus sévères, et donc elle est rendue beaucoup plus difficile. Là encore, c'est un problème de degré. Si on en met trop, ben, il n'y a plus de titrisation, et donc les banques sont plus contraintes et prêtent moins. Inversement, si la précaution est insuffisante. On a les subprimes. Aux États-Unis, il y avait très peu de précautions et on a vendu n'importe quoi sur le marché.
Gisabelle Coupé-Soubéran, je crois qu'on a là, entre les fonds propres et la titrisation, les deux ingrédients, en quelque sorte, de la crise bancaire passée. Titrisation, ça résonne un peu comme Fukushima dans les oreilles du public aujourd'hui. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de la titrisation ?
On a surtout raison d'avoir peur, si vous voulez, de la fragilité du secteur bancaire. Parce que je rejoins Pierre Delauzin sur l'idée que des réformes ont été menées. Ces réformes, on peut même dire qu'elles vont dans le bon sens. Mais en revanche, je ne le rejoins pas du tout sur la conclusion qui est que on a relevé considérablement les digues, on les a relevées suffisamment. Je crois que les digues n'ont pas été suffisamment relevées. Je crois aussi que le problème de la Deutsche Bank, ce n'est pas simplement une inquiétude sur le niveau de ses fonds propres. Effectivement, cette banque n'est pas suffisamment capitalisée. Et le dernier exercice de stress test mené par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Bancaire Européenne permet de s'en convaincre, même si, au passage, la BCE a donné un petit coup de pouce à la Deutsche Bank en intégrant une opération qu'elle n'aurait pas dû intégrer, qui rehausse un peu le niveau des fonds propres de la Deutsche Bank. C'est pas que ce problème-là. Le problème de la Deutsche Bank, c'est vraiment, si vous voulez, la remise en question, finalement, d'un modèle ou d'un anti-modèle bancaire européen qui repose sur de véritables mastodontes qui sont très largement appuyés sur les marchés financiers, qui réalisent la majeure partie de leur activité sur les marchés financiers. C'est pas mal en soi de réaliser des activités sur les marchés financiers quand ça contribue au financement de l'économie. Mais c'est pas ce qu'elles y font. Elles y mènent des opérations spéculatives. Le temps de détention des titres, c'est de l'ordre de la seconde. Elles ne mènent pas des opérations permettant, si vous voulez, de détenir longuement des titres contribuant au financement de l'économie. Ces banques-là sont assez peu capitalisées, on l'a dit, et elles contribuent aussi assez peu à l'économie en octroyant des crédits. Il y a peu de crédits à la clientèle au bilan de ces banques. Il y a à peine 30% de crédits à la clientèle, et sur ces 30% de crédits à la clientèle, vous avez 5% de crédits qui vont aux PME.
Pierre Delauzin, comment peut-on défendre les banques face à ce réquisitoire, qui est un réquisitoire qu'on entend souvent contre les banques et contre le système bancaire actuel?
Si vous voulez, d'abord, les activités de marché financent aussi l'économie, puisque en France, maintenant, le marché fournit 40% des financements de l'économie. Bon, aux États-Unis, c'est de l'ordre de 80%. Et ça fonctionne. Il peut y avoir des problèmes, mais il peut y avoir aussi des problèmes pour l'activité bancaire classique, du crédit. Il y a eu énormément de crises dans le passé qui étaient des crises du crédit bancaire classique. Donc, moi, je me suis occupé de la crise d'Amérique latine dans les années 80. C'était les banques qui prêtaient aux États. C'était sur leur bilan. C'était des prêts classiques. Donc, toute activité financière, comme c'est une estimation qu'on prête de l'argent à quelqu'un qui vous le rendra, ou vous achetez des titres et ces titres ne vont pas perdre de la valeur, c'est une estimation sur le futur. Donc, il peut y avoir un risque. Donc, c'est une activité qu'il faut faire avec beaucoup de précautions tout autour, et des sécurités, c'est-à-dire les digues, donc les fonds propres. Mais l'activité de marché par elle-même est évidemment utile à l'économie aussi. La question principale qui se pose, c'est de savoir comment c'est fait. Est-ce que ces marchés sont bien organisés? Est-ce que ça fonctionne bien? Et ainsi de suite. Or, par exemple, on parlait des fonds propres. Il est clair que le mode de financement le plus sain, en dernière analyse, c'est les fonds propres. Le fonds propre, ça veut dire que quelqu'un a mis de l'argent, il a acheté des actions. Et si vous achetez des actions, ça veut dire que si ça marche très bien, vous allez gagner de l'argent, mais si ça ne marche pas, vous le perdez et vous l'acceptez à l'avance. C'est un moyen très très sain. Et ce dont nous souffrons, à mon avis, globalement, bien au-delà des banques, c'est d'une insuffisance de fonds propres, et je dirais notamment en France, où tout le système fiscal est très défavorable aux fonds propres et aux investissements en fonds propres. Or, le fonds propre, c'est le moyen de financement le plus sûr, le plus sécurisé.
Gisabelle Coupé-Soubéran.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, et je crois que les banques devraient entendre ce type de message aussi. Les fonds propres sont, vous l'avez dit tout à l'heure, sont absolument vitaux pour l'activité bancaire, et je pense qu'il ne faut pas surestimer, si vous voulez, cette idée que lorsqu'on augmente les fonds propres, ça aurait nécessairement un effet pervers pour le financement de l'économie. Ça, c'est un argument très rhétorique. Vous parliez de réquisitoire tout à l'heure, qu'on entendait beaucoup. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la rhétorique du secteur bancaire autour de l'effet pervers de la réglementation. Donc je pense qu'il faut pas, il faut pas surestimer ça. Et juste, j'attire votre attention sur un point. C'est que, généralement, les banques les plus capitalisées, celles qui ont le plus de fonds propres, eh bien, ce sont aussi celles qui contribuent le plus au financement de l'économie. Ce sont celles qui font le plus de crédit, contrairement à ce qu'on pense. Et ça, ce sont des études très sérieuses qui le montrent de la Banque des règlements internationaux.
Marie Viennot.
Oui, alors on a parlé des choses qui avaient quand même avancé depuis la dernière fois. Et notamment, il y a cette, donc, ce processus de résolution bancaire, ce qu'on appelle la résolution d'une banque, c'est-à-dire en fait les étapes qui peuvent aller jusqu'à la faillite d'une banque. Et donc depuis la dernière crise, on s'est dit, bon, pour éviter encore ce problème de tout d'un coup une banque a un problème et on ne sait pas quoi faire à part que le contribuable va l'aider, quelles sont les différentes étapes qu'on pourra mettre en place. Et donc cette réflexion a eu lieu, elle s'est traduite même au niveau européen, donc par l'union bancaire. Là, on en parlait tout à l'heure à propos de la Deutsche Bank. Est-ce que là, avec la Deutsche Bank, on ne pourrait pas avoir en fait un test réel de ces projets qu'on a menés?
Isabelle Coupé-Soubéran, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences économiques et que vous êtes responsable du master contrôle des risques bancaires.
Oui, merci. Alors effectivement, ça va être l'épreuve du feu pour l'union bancaire si toutefois les difficultés de la Deutsche Bank venaient à s'accentuer.
Mais est-ce que ces projets qui ont été mis en place peuvent même changer la donne pour les problèmes qu'a Deutsche Bank? Parce qu'il y a maintenant dans la tête de ceux qui sont actionnaires de Deutsche Bank ou quoi, l'idée qu'on a maintenant ce processus de résolution bancaire donc qui n'existait pas avant.
Oui, bien sûr. Alors c'est quelque chose qui commence à être bien intégré par les créanciers qui sont devenu, du fait de la mise en place du dispositif de résolution des difficultés bancaires dont vous parliez, beaucoup plus sensible aux risques bancaires qu'il l'était auparavant. Il faut dire qu'auparavant, avant la crise, les créanciers étaient totalement insensibles aux risques bancaires, puisqu'ils savaient qu'en cas de problème, eh bien, on mettrait les contribuables à contribution, les pouvoirs publics interviendraient systématiquement, et donc eux n'auraient pas trop à mettre la main à la poche. C'est ce qui permettait d'ailleurs aux banques de se financer à moindre coût sur les marchés financiers, de faire grossir leurs dettes et de réduire ainsi la part de leurs fonds propres à leur bilan. Ça les a considérablement fragilisés.
Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a changé.
Il y a quelque chose qui a changé. On remet un peu les choses en bon ordre avec ces dispositifs de résolution, puisque dans les dispositifs de résolution, un des principes fondamentaux, c'est la mise à contribution, en premier lieu, des créanciers seniors. Donc bien sûr, d'abord, mise à contribution des actionnaires, les fonds propres sont là pour ça, et ensuite, mise à contribution des créanciers seniors. Les banques ont énormément résisté à cela, en menant même une campagne de désinformation, en faisant croire aux petits déposants qu'ils allaient être spoliés, que c'était eux qu'on allait mettre à contribution en premier. Non, ce dispositif met à contribution les créanciers seniors. C'est vrai que ça les rend sensibles au risque et que ça peut rendre les marchés un peu plus volatiles. Mais c'est pas cette discipline de marché-là, elle est nécessaire en complément de la régulation.
On écoute Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui considère qu'il ne faut pas arriver à un nouveau Lehman Brothers. C'était le 2 octobre dernier.
Si l'analyse était que c'était systémique en Allemagne, et si c'est systémique en Allemagne, ça peut avoir des conséquences au-delà d'Allemagne, naturellement, il ne faut pas laisser un nouveau Lehman.
Mais je
n'ai pas l'appréhension d'un nouveau Lehman. D'ailleurs, regardez les rebonds de l'action de Deutsche Bank. Sauf erreur de ma part, vendredi, elle a rebondi énormément.
Est-ce que vous avez
énormément.
Une inquiétude sur la chancelière?
Donc, M.
Trichet.
Il faut rester sage.
Pierre Delauzin, pour l'Association française des marchés financiers, un nouveau Lehman Brothers, est-ce que c'est aujourd'hui plausible?
Non, la grosse différence, c'est qu'effectivement, on a mis en place le mécanisme que Mme Coupé-Soubéran a décrit, c'est-à-dire de renflouement interne, où on peut, dans un espace de temps extrêmement bref, d'abord mettre à contribution les actionnaires, puis les créanciers qui ont accepté d'être servis après tous les autres, donc qui ont pris plus de risques que les autres, mais qui, bien entendu, sont plus rémunérés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un dispositif sain. Autrement dit, on pouvait, à la limite, on aurait pu liquider Lehman Brothers, mais en quelques jours, au lieu de le faire sur des années où on ne sait pas qui
avec
va être affecté. Et
oui.
Comme on ne sait pas qui va être affecté, tout le monde a peur de tout le monde. Ça, on peut espérer l'éviter, parce que effectivement, ça pourra se faire extrêmement vite. Mais évidemment, Le faire sur une banque petite et moyenne, c'est une chose. Sur une très grosse entité, c'est plus délicat.
Mais Pierre Delauzin, ce qui est apparu après la crise bancaire, c'est qu'il y avait des règles. Donc ces règles, on vous entend, augmentation des fonds propres, limitation de la titrisation. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais on s'est rendu compte également que des gens avaient tout simplement bafoué les règles. C'est-à-dire que les agences de notation ont noté et considéré comme sûrs des produits qui ne l'étaient pas du tout. Des vendeurs de crédits ont vendu des crédits à des taux qui étaient absurdes, en sachant très bien que les personnes qui allaient contracter ces crédits ne pourraient pas les rembourser. Autrement dit, ça pose le problème, pardonnez-moi, mais de l'honnêteté d'une partie, évidemment, de ces gens qui ont travaillé dans le secteur bancaire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce secteur s'est moralisé ?
Ben, si vous voulez, il y a eu déjà une action du shérif. Le shérif américain a mis des amendes tout à fait considérables. Hein. Le produit se chiffre en plusieurs centaines de milliards de dollars. Et d'ailleurs, le problème de Deutsche Bank, c'est qu'il y a encore des amendes qui tombent. Donc, on ne sait pas le niveau que ça sera à la fin, parce que vous savez, la justice américaine négocie. Bah,
vous dites énorme, mais par exemple, si on prend la Deutsche Bank, pardonnez-moi, 12 milliards de dollars d'amendes, 41 000 milliards d'engagements. Est-ce que c'est vraiment à hauteur des enjeux?
Mais ça n'a rien à voir. Les engagements ne veulent rien dire. Ça, c'est l'illusion comptable. Si je fais une affaire avec vous, et que le lendemain, nous faisons l'affaire inverse, nous n'avons plus d'affaires l'un par rapport à l'autre. Mais comptablement, les deux affaires sont toujours là. Donc, le niveau comptable ne veut rien dire. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement les niveaux de fonds propres et les niveaux de risque réel final à la fin. Quand vous voyez qu'une amende est telle qu'elle fait s'effondrer le cours de bourse de Deutsche Bank, puis après ça a corrigé parce qu'on a eu d'autres informations.
Le cours de banque était bas avant.
Il était déjà bas, mais il a baissé fortement. Ça veut bien dire que cette amende n'est pas ridicule. En tout cas, elle est considérée comme considérable. Et là, je peux vous dire, personnellement, je trouve qu'il est dommage que ça traîne si longtemps, mais qu'en soi, il y ait des amendes pour des gens qui ont fait des fautes, c'est juste.
C'est évidemment pas pour des gens, c'est pour des établissements. Parce que, encore une fois, les personnes ne sont jamais visées.
Voilà. C'est un problème, d'ailleurs. Hein. Ce serait plus efficace si elles l'étaient. Hein.
Moi, je pense que ça, c'est un problème. C'est qu'on ne met pas en cause des gens qui ont pu prendre, ou pas assez, des gens qui ont pu prendre des mauvaises décisions.
Isabelle Coupé-Souberan, qu'est-ce que vous en pensez? On s'est rendu compte qu'il y avait des gens malhonnêtes. Est-ce que, d'après vous, c'est constitutif, en quelque sorte, au secteur? Pas à la totalité des gens qui y travaillent, évidemment, mais à une partie d'entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que les brebis galeuses sont hors de ce système?
La Deutsche Bank, dont on parle, c'est une banque systémique. Et ce qui caractérise le secteur bancaire européen, c'est précisément la présence d'établissements bancaires systémiques. Ils sont une quinzaine.
Une banque systémique, c'est une banque...
Une banque énorme qui, si vous voulez, de par sa taille, de par ses interconnexions, de par la complexité de ses activités, peut menacer le système tout entier si toutefois elle vient à connaître des difficultés. C'est vraiment face à cela que nous sommes avec les problèmes de la Deutsche Bank. Et je veux simplement attirer votre attention sur le fait que le secteur bancaire européen est structuré autour d'un nombre assez petit de très très gros établissements qui forment un véritable oligopole capable d'entente frauduleuse. C'est à cela que l'on a assisté. C'est ça qui est sanctionné pour la Deutsche Bank. Tout à l'heure, vous disiez les règles ont été bafouées. Eh bien, des règles sont bafouées précisément parce que une poignée d'établissements est capable sont capables de s'entendre pour tromper les investisseurs, par exemple sur la qualité de produits issus des crédits subprimes. C'est l'amende en cours.
C'est aujourd'hui un risque encore encouru. Pierre Delauzin, est-ce que vous pensez que la moralisation n'est pas allée jusqu'au bout dans le secteur bancaire?
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le dernier point. Il est clair qu'un oligopole peut faire du mal, etc. Mais il n'y a pas qu'un oligopole. Aux États-Unis, les subprimes, c'était une industrie répandue. Il y a des garagistes qui se mettaient à faire du crédit. Donc, c'était quelque chose de très large. La moralisation, ça suppose deux choses. Ça suppose des règles et des punitions pour les gens qui font mal. Et ça, c'est un aspect important, le côté shérif que je disais tout à l'heure. Et puis après, une prise de conscience suffisante des acteurs. Plus il y a prise de conscience, moins on a besoin de shérif.
Merci Isabelle Coupé-Souberan, merci Pierre Delauzin de nous avoir exposé ces deux points de vue sur la crise du système bancaire.